VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Au micro ce soir, Nicolas Pino et Tatiana Mousseau à la une de notre émission.
Ebola, un premier vaccin efficace à 100% selon un essai sur le terrain. Il a été expérimenté en Guinée sur plus de 4000 personnes.
Premier voyage de Michel Cafando chez le voisin ivoirien. Le président de la transition a été accueilli par Alassane Ouattara alors que le Conseil national de transition au Burkina vient d'élaborer un projet de loi limitant à deux le nombre de mandats présidentiels à moins de 3 mois de la présidentielle.
C'est tout à fait normal quand on sait que M. Alassane Dramane Ouattara avait pour parrain M. Blaise Compaoré, puisque c'est M. Blaise Compaoré qui a aidé M. Ouattara à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire.
Au Zimbabwe, les autorités réclament l'extradition du riche dentiste américain qui a tué début juillet le lion Cécile, spécimen protégé et attraction vedette de la grande réserve animalière de Wangé.
Dans le reste du monde, consternation et condamnation dans le monde après la mort d'un bébé palestinien brûlé vif dans l'incendie de sa maison par des extrémistes israéliens. Et comme tous les soirs, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports, Pékin décroche les Jeux Olympiques d'hiver en 2022. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Nous ouvrons avec cette bonne nouvelle sur le front du virus Ebola. Un vaccin expérimental s'est révélé à 100% efficace lors d'un essai clinique réalisé sur le terrain en Guinée. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'annonce. Les détails avec Timothée Dodangmai.
L'essai clinique a été réalisé sur 4000 personnes avec une efficacité de 100% au cours des 10 jours suivant son administration chez une personne non infectée mais en contact avec des malades. Les premiers résultats du vaccin VSV-Zebov, publié dans la revue médicale britannique The Lancet, suscitent l'enthousiasme des scientifiques. Un vaccin efficace contre le virus Ebola est à portée de main à l'échelle mondiale, a commenté l'OMS qui parle d'une avancée très prometteuse. Le vaccin a été développé par l'Agence de la santé publique du Canada et la licence a été déposée par les laboratoires américains Merck et NewLink Genetics Corp. L'essai a été mis au point grâce à une importante coopération internationale impliquant l'Organisation mondiale de la santé ainsi que des experts de Norvège, de France, de Suisse, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Guinée. Depuis son déclenchement en Guinée en décembre 2013, a fait 11 279 morts, un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'OMS.
Au Libéria, l'UNICEF annonce que 70 000 naissances n'ont pas été enregistrées durant l'épidémie d'Ebola. L'agence onusienne estime que les déclarations ont baissé de près de 40% l'année dernière par rapport à 2013, et ce en raison de fermetures des maternités à travers le pays dues à l'infection par les personnels de santé au virus Ebola.
Nouvel attentat suicide au Nigeria, plus de 100 islamistes tués selon l'armée tchadienne. Une kamikaze s'est fait exploser et a tué 6 personnes vendredi sur un marché de Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Une attaque portant la marque des insurgés de Boko Haram, dont une centaine de combattants selon l'armée tchadienne ont péri ces 15 derniers jours dans des combats sur le lac Tchad.
Et ce vendredi devrait officiellement être installé dans ses fonctions le général nigérian Abba. Il sera à la tête d'une force régionale de 8700 hommes censés éradiquer la menace terroriste.
Nouveau rebondissement dans l'affaire du lion Cécile. Le Zimbabwe demande l'extradition du dentiste américain Walter Palmer. Palmer avait, je vous le rappelle, abattu puis dépecé Cécile, spécimen protégé et attraction vedette de la grande réserve animalière de Wangé. Les précisions de Saloua Jafari.
We are therefore appealing to the responsible authorities.
Une requête officielle formulée par la ministre de l'Environnement zimbabwéenne Opamushinguri. Walter Palmer est un criminel et le Zimbabwe demande que justice soit faite. Selon la ministre, les résultats d'une investigation révèlent que la mort de Cécile le Lion a bel et bien été orchestrée, financée. Le client ainsi que ses acolytes sont tous coupables. Ces demandes ont néanmoins peu de chances d'aboutir. Les États-Unis maintiennent le Zimbabwe sous sanction en raison des atteintes aux droits de l'homme du régime du président Robert Mugabe. Les autorités américaines de la protection de la faune ont toutefois ouvert une enquête. Le chasseur de trophées animalier de 55 ans a tué Cécile le lion début juillet après avoir attiré le félin avec une charogne hors d'un parc national. Blessé par flèche, il n'aurait été achevé au fusil que 40 heures plus tard, dépecé, puis décapité. Walter Palmer n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2008, il avait été reconnu coupable de braconnage pour avoir abattu un ours.
Si vous voyagiez à Kinshasa, Conakry ou Cotonou, sauriez-vous où dormir ? Airbnb a un début de réponse. La compagnie américaine connaît un boom incroyable en Afrique. La célèbre plateforme de location et de réservation de logements de particuliers est déjà présente dans 17 pays. Il y a peu d'hôtels à petit et moyen prix sur le continent. Alors, résultat, la compagnie américaine en profite pour s'imposer sur ce marché très porteur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné fermement le meurtre d'un enfant palestinien brûlé vif dans l'incendie criminel de sa maison par des extrémistes israéliens en Cisjordanie occupée, le qualifiant d'acte terroriste. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a eu les mêmes termes. Il a ordonné aux forces de sécurité d'arrêter les meurtriers et de les traduire en justice.
Des engagements qu'il a réitérés lors d'un appel téléphonique au président palestinien Mahmoud Abbas. L'autorité palestinienne affirme tenir le gouvernement israélien entièrement responsable de la mort de ce bébé à cause de l'impunité qu'il accorde, selon elle, aux colons israéliens de Cisjordanie.
Est-ce la fin du mystère, ou presque, à La Réunion ?
Le débris d'avion retrouvé sur l'île proviendrait bien de l'appareil de la Malaysia Airlines. En tout cas, c'est ce que pensent les experts. L'expertise du fragment d'aile retrouvé débutera mercredi, selon la justice française. Le vol MH370 avait disparu en mars 2014 avec à son bord 239 personnes. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les autorités espèrent confirmer l'origine de cette pièce dans les prochaines heures, a déclaré Martin Dolan, chef du bureau australien de la sécurité des transports. Long de 2 mètres, le fragment, un morceau d'aile appelé flaperon, doit arriver à Toulouse d'ici samedi pour analyse. Il a été retrouvé sur une plage de La Réunion, à l'est de Madagascar, à plus de 3500 km du dernier point de localisation de l'avion de Malaysia Airlines. Rien d'étonnant en cela, estime l'expert Steve Saint-Amour, qui explique que les forts courants marins de l'océan Indien arrivent jusqu'aux côtes australiennes, puis repartent vers l'ouest, vers Madagascar. Jean-Paul Toadec, un ancien directeur du Bureau français des enquêtes et analyses, fait remarquer de son côté que toutes les pièces de la voilure et de la dérive d'un avion sont creuses et peuvent flotter. Xavier Titelman, autre expert français, a examiné les photos du débris d'avion et quant à lui persuadé qu'il s'agit bien d'une pièce du Boeing 777, le type d'avion assurant le vol 370 de Malaysia Airlines et porté disparu en 2014.
Au Yémen, 9 soldats fidèles au président en exil Abd Rabo Mansour Hadi ont été tués ce vendredi par un attentat à la voiture piégée dans le sud-est du pays. L'armée yéménite accuse Al-Qaïda d'être à l'origine de cette attaque. Et par ailleurs, le front al-Nosra revendique l'enlèvement dans le nord de la Syrie de 8 rebelles formés par les États-Unis.
Prolongation de l'état d'urgence en Tunisie pour 2 mois, c'est ce qu'annonce la présidence face à la persistance de sérieuses menaces d'attentats djihadistes. Le pays et les touristes étrangers restent traumatisés par les récentes attaques. Rachid Bouda.
C'est à partir du 3 août prochain que l'état d'urgence sera prolongé sur toute l'étendue du territoire, selon un communiqué de la présidence. Cette décision a été prise par le président Beji Saïd Essebsi après concertation avec le chef du gouvernement et du Parlement. Le pays fait face à une guerre spéciale contre le terrorisme, rapporte à l'AFP Moïse Sinaoui, porte-parole du gouvernement. Selon lui, les conditions ayant conduit à l'instauration de l'état d'urgence persistent. L'état d'urgence avait été décrété le 4 juillet, quelques jours après le plus sanglant attentat qu'ait connu le pays. Revendiqué par l'État islamique, 38 touristes, dont 30 Britanniques, avaient été tués par un étudiant armé d'une Kalachnikov dans un hôtel de port El Kantaoui. Une attaque meurtrière avait déjà visé des touristes au musée du Bardo. Si cette mesure est applaudie par une partie du peuple tunisien, elle est mal perçue par certains craignant une restriction des libertés publiques et une criminalisation de mouvements sociaux. Human Rights Watch avait déjà interpellé le gouvernement tunisien pour ne pas abuser de leur pouvoir sur l'état d'urgence. Selon l'ONG, elles ne doivent pas outrepasser ce que la constitution tunisienne et le droit international autorisent.
Les talibans afghans désignent un successeur au Mollah Omar. Akhtar Mansour, ancien bras droit du Mollah Omar, a été nommé ce vendredi alors que le gouvernement afghan et les talibans se sont engagés dans des pourparlers de paix. Situation toujours complexe entre Paris et Londres.
Oui, de nombreux migrants massés sur les côtes françaises ont encore tenté dans la nuit de jeudi à vendredi de s'introduire sur le site du tunnel sous la Manche. Une nouvelle fois, ils se sont heurtés aux forces de police. Ce vendredi, une réunion est prévue entre David Cameron et le président français François Hollande.
Dylan Roof, l'auteur de la fusillade qui a fait 9 morts le mois dernier dans une église de Charleston en Caroline du Sud, a décidé de plaider non coupable. Son principal avocat a affirmé qu'il ne pouvait pas conseiller à son client de plaider coupable, comme ce dernier souhaitait le faire, avant que le ministère de la Justice n'annonce son intention de demander ou non la peine de mort dans cette affaire.
Et puis Angelina Jolie exhorte la Birmanie à poursuivre les auteurs des violences sexuelles après sa rencontre émouvante avec des femmes du nord du pays. L'actrice américaine à Rangoon depuis mercredi à l'invitation de l'opposante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi.
C'est la fin de ce journal Place à la Minute Éco, présenté ce soir par Michel Joseph.
Le Burkina Faso va consacrer 7,7 milliards de francs CFA à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes sur la période 2015-2017, a appris APA jeudi auprès du ministère en charge de l'emploi. Ce montant sera dédié à la mise en œuvre de la phase 2 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. La première phase de 2012 à 2014 a permis la création de 44 888 emplois directs, 55 618 emplois indirects et 44 017 occupations au profit des jeunes et des femmes. Par ailleurs, l'agence APA signale que sur les marchés d'échange, la disgrâce des pays émergents est généralisée. Les monnaies du Brésil, mais aussi du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Colombie et de la Turquie sont attaquées et cotent à leur plus bas niveau depuis plusieurs années. Véronne Mankou est fière aujourd'hui de présenter à Brazzaville les premiers téléphones conçus et fabriqués en Afrique francophone. Son entreprise, VMK, est installée dans un immeuble du centre de la capitale de la République du Congo et se prépare à une inauguration officielle. Mais l'usine marche déjà. Le premier téléphone fabriqué au Congo en est sorti le 13 juillet. Assis côte à côte, le long de deux lignes de montage, rapporte l'AFP, quelques 70 ouvriers en blouse et casquette bleue montent les téléphones Elikia. Espoir en Lingala, la première langue nationale du Congo.
Merci Michel Joseph pour la Minute Éco. Place au sport à présent dans cette émission avec Timothée Donogmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nico.
On commence par du football. Les espoirs africains sont de sortie pour espérer gagner leur billet pour le championnat d'Afrique de la catégorie.
Ce sera au Sénégal en décembre prochain et les Lionceaux de la Teranga sont qualifiés d'office. Ce soir à Lusaka, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie après avoir concédé un match nul 0-0 à Abidjan. Autre rencontre de ce soir, Afrique du Sud, Zimbabwe. À suivre ce week-end, Mali, Gabon, 1-0 à l'aller. Ouganda, Égypte, 0-4 à l'aller. Congo, Nigeria, 1-2 à l'aller. Et Tunisie, Maroc, 0-1 à l'aller.
Rubrique transfert.
Un temps suivi par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2020.
Et on parle à présent de l'arrivée triomphale pour Didier Drogba à Montréal.
L'attaquant ivoirien qui a signé à l'Impact de Montréal a été accueilli par les supporters à son arrivée à l'aéroport. Lors d'une conférence de presse, la star ivoirienne a jugé qu'il avait un beau défi à relever. On l'écoute.
Si je me sentais cramé, je n'aurais jamais relevé ce défi. Je pense qu'à 37 ans, on a pu voir la saison dernière quand même que j'ai pu répondre présent lorsque le coach avait besoin de moi. C'est juste l'envie d'être un peu plus sur les terrains qui était pressante. On se rend compte qu'aujourd'hui, un joueur comme Frank Lampard, Steven Gerrard, David Villa vont dans ce championnat-là, donc ils sont en train de donner une valeur ajoutée au championnat. Donc forcément, avec toute cette force européenne qui arrive, le championnat aura encore plus de visibilité sur la scène européenne. On sait où on met les pieds. J'ai pu construire une carrière avec des résultats, donc c'est peut-être se servir de ces résultats-là pour tirer l'équipe vers le haut. Je viens ici pour gagner.
Didier Drogba, tout nouveau joueur de l'Impact de Montréal.
Enfin, Pékin qui rentre dans l'histoire.
Eh oui, Nico, la capitale chinoise a été choisie vendredi pour organiser les Jeux olympiques d'hiver 2022 après ceux d'été en 2008. Pékin va entrer dans l'histoire en devenant ainsi la première ville à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d'hiver et d'été.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donormaille pour le journal des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de votre émission.
Séance de travail ce vendredi entre le président de la transition burkinabé, Michel Kafando, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Lors de cette visite de travail de 48 heures, ils ont évoqué la question de coopération économique et de sécurité.
Une première visite durant laquelle Michel Kafando a déclaré que l'exil de son prédécesseur Blaise Compaoré dans la capitale ivoirienne depuis sa chute ne représentait pas un problème pour Ouagadougou tant qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire. Baga Sikoura a joint Yacouba Gbané, directeur du journal Le Temps à Abidjan.
Les malentendus ont été très, très dissipés et qu'aujourd'hui, chacun des deux pays veulent parler le même langage, regarder dans la même direction. Peut-être que c'est la présence de Blaise Compaoré qui est peut-être le président de la transition, dans la mesure où peut-être il avait une crainte pour dire que peut-être qu'il voulait faire peut-être la Côte d'Ivoire une base arrière pour revenir au pouvoir. Bon, okay.
On sait que l'essentiel de leurs travaux va être consacré à l'économie. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que des questions politiques soient évoquées, notamment la présence de Compaoré à Abidjan?
Oui, mais justement, la visite elle est officielle. Ce qu'on va dire devant les caméras, devant les journalistes, ça va se passer à huis clos. Ça veut dire qu'on ne viendra pas nous dire que ouais, on est venu pour les questions politiques. Non, on viendra dire que c'est les problèmes économiques, mais en dehors de là, la présence de Blaise Compaoré, il faudrait que Kafando va venir chercher des garanties. Quelles garanties la Côte d'Ivoire donne à la transition au Burkinabé qui craint toujours pour dire que Blaise Compaoré peut, à partir de la Côte d'Ivoire, entendre quelque chose.
À un certain moment, on avait senti que Alassane Ouattara n'était pas très content de la transition au Burkina. Hein. Il parlait du fait que l'exclusion n'était pas acceptable lors des prochaines élections.
C'est tout à fait normal quand on sait que M. Alassane Dramane Ouattara avait pour parrain M. Blaise Compaoré, puisque c'est M. Blaise Compaoré qui a aidé M. Ouattara à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, puisque le Burkina sous Blaise Compaoré était la base arrière des ex-rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il voit que son parrain est tombé et que tous les partisans de ses parrains sont exclus. C'est normal qu'ils se plaignent. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont condamnés à parler. Vous voyez, on n'a pas dit qu'au Burkina et à la Côte d'Ivoire de s'aimer, mais nous sommes condamnés à nous aimer, à vivre ensemble.
Est-ce que vous pouvez revenir sur certains des grands projets qui lient les deux États, notamment sur le plan économique?
Vous savez que au niveau de l'électricité, la Côte d'Ivoire fournit l'électricité au Burkina Faso. N'oubliez pas aussi que les bétails viennent aussi du Burkina. Bon, vraiment, c'est ça quoi.
Yacouba Gbané est directeur du journal Le Temps. Il était joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Burundi, toujours de vives réactions après l'entrée au Parlement d'Agathon Rwasa. L'élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'ancien rebelle suscite des désaccords au sein de l'opposition. Éric Manirakiza a joint Gérard Birantin-Pigé, professeur de l'université de Bujumbura.
Moi, je trouve la première raison que c'est une raison de survie politique. Depuis 2010, Rwasa est en quelque sorte un politicien qui se trouve en électron libre. Il n'a pas de parti politique, mais il a des militants. Et son alliance avec le courant de la réhabilitation du parti Iprona pour former la coalition à mi-zéro répond à ce souci pour Rwasa et ses militants d'avoir en quelque sorte une identité politique. La deuxième raison, moi, je la trouve du côté idéologique. Il y a dans la coalition qui s'est mise en place un attachement à l'accord d'Arusha et à la Constitution. Des variables qui sont aussi défendues mordicus par les autres opinions politiques et même les opinions de la société civile. La troisième raison que moi je trouve aussi rationnelle pour Rwasa, c'est vraiment une raison d'ordre sécuritaire. S'il y a un parti politique, des gens qui défendent une certaine opinion, qui ont payé vraiment un haut tribut avec la sortie du processus électoral de 2010, c'est bien et bien le FNL et le MST.
Est-ce que vous pensez que le choix de Rwasa affaiblit le reste de l'opposition?
Rwasa a tout de même une assise populaire. Au niveau des autres partis politiques, il voit que Rwasa constituait un pilier. L'opposition aura une mission, des objectifs bien définis. Et qui veut une fin, veut des moyens. Donc, à mon avis, même en dehors de Rwasa, l'opposition peut continuer à jouer sa carte et peut toujours peser sur l'échiquier politique.
Justement, à Addis Abeba, en Éthiopie, plusieurs leaders de la société civile et du reste de l'opposition s'y réunissent depuis mercredi pour réfléchir sur l'idée d'un gouvernement d'union nationale après le 26 août et la tenue d'élections libres et équitables selon certains participants. Certains anciens chefs d'État burundais y participent également. Qu'en pensez-vous?
À mon avis, c'est une très bonne chose parce que dans tous les cas, même si les élections ont eu lieu, on reste dans l'impasse politique. C'est vrai, on peut avoir un gouvernement, on peut avoir des institutions qui seront mises en place d'ici peu, mais est-ce que ces institutions ont toute la légitimité qu'il faut? Si l'opposition parvient à s'asseoir ensemble, à se constituer en une force capable de peser sur le pouvoir de Bujumbura, ça pourrait remettre, je pense, les pendules à l'heure.
Le professeur Gérard Biranta-Pigé, joint à Bujumbura. Retrouvez toutes les infos de la crise burundaise sur notre site internet voafrique.com.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Les chefs de renseignement des 10 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale étaient réunis mercredi et jeudi dans la capitale gabonaise pour élaborer une stratégie commune contre la secte nigériane Boko Haram. Ce plan devait être présenté aux chefs d'État lors du sommet CEACCDAO qui se tient début août à Malabo, en Guinée équatoriale. De Libreville, les précisions de Jean Rovis Dabani.
Le Gabon, le Congo, la RDC se sont gardés de franchir certaines limites. Aucun de ces pays n'a jusqu'ici pris un engagement militaire. Ils le savent, engager leurs troupes dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram serait considéré comme une déclaration de guerre par la secte nigériane qui mène des attaques au Tchad et au Cameroun voisins. Il est donc clair que leur solidarité comporte des limites malgré l'engagement de leurs dirigeants. Mais même avec les efforts entrepris, la volonté de s'unir face aux dangers qui pèsent sur les États de la région se heurte à l'absence d'une véritable coopération militaire régionale inclusive. Béni Sébastien Mantuela est le conseiller du commissaire général de Kinshasa. Il a pris part à la réunion de Libreville.
Les États sont sensibilisés en rapport avec la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Il était temps que les États de la communauté économique des États d'Afrique centrale puissent s'éveiller pour déterminer des mécanismes communs de lutte contre cette forme de criminalité qui est née en Afrique.
À la question de savoir si le Congo entend fournir des soldats pour étoffer la force régionale qui sera basée dans la capitale tchadienne, le patron du renseignement congolais, Michel Gatier, est formel.
Envoyer des troupes, je ne peux pas le dire, mais sinon que c'est un problème de gouvernement. Donc, je ne suis pas mieux placé pour répondre à ce genre de questions, mais je crois que ça intéresse vraiment le gouvernement. Et ils ont tout intérêt vraiment à s'impliquer.
Comme Malabo, Libreville manque à l'appel. Malgré les déclarations de bonnes intentions, le Gabon ne prévoit pas d'engager des hommes sur le front pour la simple et bonne raison que le pays risque d'être frappé à son tour, glisse un diplomate africain en poste à Libreville sous couvert d'anonymat. Certes, le Gabon partage sa frontière nord avec le Cameroun, mais il reste relativement protégé face à un risque d'attaque directe sur son sol. Guy Meksam Amiaka est le ministre adjoint gabonais à l'intérieur.
Est-il besoin de faire la preuve des dangers que nous encourons? Ne sommes-nous pas sensibles? Ne sommes-nous pas attentifs aux actes de violence que connaissent le Nigeria, le Tchad et maintenant le Cameroun? Pensons-nous que nous allons attendre qu'un nouvel État soit affecté sans que nous ne réagissions? De la réflexion précède l'action. Et réfléchir, c'est agir déjà.
Face à une menace devenue régionale, le Gabon a ordonné la mise aux forces de sécurité de procéder à tout moment à l'identification de personnes portant le voile intégral. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VU Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Mali, la mine d'or de Morila fermera ses portes en 2017. Randgold, qui exploite le site, met en place plusieurs projets de reconversion, notamment la construction d'un lac artificiel. Le correspondant de VOA Afrique au Mali, Kassim Traoré, s'est rendu sur place.
Dans 2 ans, ça sera la fin de l'extraction de la mine d'or de Morila. C'est pourquoi Randgold veut installer un projet d'agrobusiness pour pérenniser le soutien de l'économie locale à Morila. Mais les responsables de la mine ont fait savoir que l'État malien, au moment de l'extraction, a gagné plus de 20% avec leur société. Adama Kone, directeur de la mine de Morila.
Quand on vend tout type de l'or, l'État a 6%. Après ces 6%, quand l'entreprise fait ses dépenses, il va rester un bénéfice brut et l'État doit
avoir 30% de ses bénéfices. Et c'est après déduction de ce montant qu'on a un bénéfice net après impôts et taxes de l'État à 20%. Donc tant qu'on met bout à bout cette contribution à l'État, on ne peut pas dire que l'État n'a que 20%. L'État n'a que 20% des actions, mais l'État n'a pas que 20% de la valeur de l'or.
Les différents projets de l'agrobusiness qui seront installés doivent à coup sûr absorber la main d'œuvre de la mine. Hilaire Diarra, responsable à Rangol à Morila.
Au bout de 5 ans peut-être, dans notre plan, dans l'étude de faisabilité, on veut avoir 44 entreprises agro. Donc selon nos estimations, quand on a 44 agro-industries ici, on pourra même avoir plus que ça. Donc en faisant cela, on va assurer au fait la pérennité du boulot pour la communauté et aussi même pour les anciens travailleurs.
Parmi les activités pilotes, la plantation des pieds de mangue sera priorisée. Sayon Kamisogo, chargé du développement social à la mine de Morila.
Au début, nous avons eu des investisseurs qui étaient intéressés par de la mangue séchée. Donc ils sont venus d'Afrique du Sud, ils ont séjourné ici. C'est des gens qui opèrent déjà au Burkina Faso. Selon leur dit, la mangue séchée n'est pas suffisante sur le marché international. La demande, elle est très forte. Avant, les grands demandeurs étaient intéressés par l'Inde. Mais maintenant, c'est la mangue du Mali qui est à la mode maintenant. Mais le Mali n'arrive pas à fournir la mangue nécessaire sur le marché international. Donc l'idéal, c'est de faire des plantations dans tous les villages qui nous entourent. Et là, ça va être suffisant.
La plupart des activités seront faites autour du lac artificiel qui a été créé par la mine. La pisciculture marche à merveille, comme nous l'explique Noun Seri, chargé des questions environnementales.
La capacité d'eau ici, c'est à peu près 1 500 000 mètres cubes d'eau. Donc on a installé 12 cases et chaque case, nous avons à peu près 12 000 à l'évain. Et en fin de cycle, chaque case peut produire à peu près 4 tonnes de poissons. L'eau est pompée du fleuve Bagoué, à 28 km à voie d'oiseau. Et nous pompons à peu près 19 000 mètres cubes par jour.
Comme pour dire que la mine de Morila est en train de réussir sa mue. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Mina, mina.
Le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Lionel Gaïma, Tatiana Mosso et Nicolas Pinault à la présentation.
On va vous souhaiter une excellente soirée à tous. Avant de se quitter, on va saluer tous ceux qui nous écoutent du côté du quartier de la Patte d'Oie à Dakar. On va faire également un grand coucou à la cité des Askia à Gao. Et on fait également un grand coucou à tous ceux qui nous écoutent à Conakry. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook et voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.